VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel dans 10 minutes, Sahel Plus avec Claire Morin-Gibourg, mais tout d'abord le journal. Pour commencer, la tragédie de l'Airbus A320 d'Égyptair qui s'est abîmé en Méditerranée orientale. Des sièges d'avion et des valises ont été repêchés aujourd'hui au large des côtes égyptiennes au lendemain du crash de l'avion d'Égyptair Paris-Le Caire dans des circonstances toujours mystérieuses. Salwa Jafari.
Il y a quelques instants, nous avons été informés par les autorités égyptiennes de la découverte d'une partie d'un corps, de deux sièges et de bagages dans la zone où les recherches ont lieu, au sud de l'endroit où le signal de l'avion a été perdu.
Le ministre de la Défense grec donne plus de détails. L'avion a été repéré plus exactement à 290 km au nord d'Alexandrie par des avions et des navires déployés par l'armée égyptienne. Des satellites ont par ailleurs détecté une possible nappe de pétrole à environ 40 km de l'endroit où l'avion a disparu, selon l'Agence spatiale européenne. Ces premiers éléments devraient aider les autorités à comprendre comment le vol a brusquement disparu des écrans radars alors qu'il survolait sans problème apparent et dans un ciel clair, la Méditerranée orientale. Les autorités égyptiennes n'écartent pas l'hypothèse du terrorisme. L'absence totale de messages de détresse émis par l'équipage avant la chute brutale de l'appareil conforte cette possibilité.
Crise au Burundi, l'opposition burundaise en exil regroupée au sein du conseil Sénaret Giriteka refuse de se rendre demain à Arusha en Tanzanie pour les premières consultations séparées devant relancer le dialogue entre Burundais. Motif, l'opposition entend participer à la session en tant qu'une seule entité et n'accepte pas des invitations individualisées en dehors du cadre Sénaret Giriteka. Thierry Vieux-Colomb de l'International Crisis Group parle d'un mauvais départ et estime que le médiateur tanzanien se trouve dans une position assez difficile. Joint par Eric Manirakiza, M. Vieux-Colomb a dit que l'opposition et le régime de Bujumbura sont tous deux perdants.
Pour le moment, je crois que tout le monde perd. C'est un jeu perdant-perdant. Je crois que c'est un jeu perdant pour l'opposition de ne pas aller à Arusha, même si elle n'est pas sous le sigle CNARED, parce que c'est quand même une opportunité de dire ce qu'il pense au gouvernement, ce qu'il manque. C'est aussi un élément qui n'est pas favorable à l'opposition parce que ça montre ses divisions, ça montre que c'est une opposition qui reste quand même très divisée, qui n'est pas capable de monter un vrai front commun face au gouvernement. Et puis du côté du gouvernement, je crois que la plupart des gens diront que sa politique actuelle n'est pas tenable dans la durée, que la situation économique va devenir de plus en plus dure pour les Burundais et que ça va rendre le pouvoir de plus en plus impopulaire.
Thierry Vieux-Colomb, joint à Paris. Notons aussi qu'International Crisis Group vient de sortir un rapport sur le Burundi intitulé « Anatomie du troisième mandat ». Tchad, réélu à l'issue de l'élection présidentielle du 10 avril qu'il a opposé à 13 autres candidats, le président sortant Idriss Déby Itno a déjà rendu public le premier acte de son prochain quinquennat. Il entend réclamer un audit de tous les services étatiques pour son mandat en cours. Une décision qui suscite des débats à N'Djamena. Des précisions avec notre correspondant sur place, André Kodmajingar.
Accédé au pouvoir en 1990, Idriss Déby Itno a été réélu pour la cinquième fois consécutive. Proclamé gagnant dès le premier tour avec 59,92% par le Conseil constitutionnel, le président sortant continue à savourer sa victoire, pourtant contestée par six autres candidats de l'opposition et une partie de la société civile. Alors qu'il n'a pas encore été investi, il déroule déjà le premier acte de son cinquième mandat.
Pour démarrer le nouveau quinquennat, le premier acte que nous ferons, c'est de faire un audit de la gestion du Tchad pendant les cinq années passées. Secteur par secteur, ministère par ministère, société par société, direction par direction.
Barka Michel, président de l'Union des syndicats du Tchad, ne croit pas à cette déclaration.
Qui va faire cet audit du Tchad de ces cinq années de régime de Déby? C'est qui? C'est peut-être dépenser de l'argent pour rien. C'est un effet d'annonce. Restons là. Et puis c'est tout.
Il déclare par ailleurs que même s'il y a audit, ces résultats ne seront pas appliqués.
Certaines formes d'audit ont identifié son frère comme ayant détourné 136 milliards. Et son frère est là. Les grandes entreprises, même au Tchad, là, sont détenues par qui? Par ses frères. Et tous ces audits-là vont donner un résultat qui n'aboutira à rien du tout.
Le porte-parole de la coalition de la société civile pour la bonne gouvernance, Soumaïn Adoum, se félicite de cette déclaration.
Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'il le fasse. Et surtout qu'il le fasse par une institution qui soit indépendante, autonome de l'État. Là où on l'attend, c'est quelle suite va être donnée. Y aurait-il des mesures qui seraient prises pour des personnes indélicates?
Pour le constitutionnaliste et ancien chercheur à l'université de N'Djamena, professeur Ahmad Mohamed Hassan, il est trop tôt pour Idriss Déby Itno de faire une telle déclaration.
Si on se réfère exactement à l'esprit de la constitution, nous avons trois Idriss Déby. On a un Idriss Déby candidat à sa propre succession, Idriss Déby nouveau président réélu, mais il n'entre légalement en fonction, conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution, qu'après l'expiration du précédent mandat. Maintenant, à cette période-là, ce n'est ni le candidat Idriss Déby, ni le nouveau président Idriss Déby investi, mais il s'agit encore de l'ancien président de la République qui n'a pas encore terminé de jouir de son mandat qui se termine le 7 août 2016 à minuit. Maintenant, quand il dévoile cela, je crois qu'il aurait dû attendre un peu.
André Koduma Dingar N'Djamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Niger, au moins 6 civils tués et 7 autres blessés jeudi soir dans une attaque du groupe islamiste Boko Haram près de la ville de Bosso dans l'extrême sud-est du pays, selon un communiqué de l'armée nigérienne aujourd'hui. Le bilan provisoire de l'attaque contre le village de Yebi à proximité de la ville garnison de Bosso est le suivant, précise le communiqué. 6 morts dont 2 tués par balle et 4 brûlés vifs, plus 7 blessés qui ont été évacués vers un hôpital. Avant de se replier vers le Nigeria, les assaillants ont incendié 10 habitations et le marché local. Ils ont aussi emporté 2 voitures appartenant à des particuliers. Des opérations de ratissage sont en cours, ajoute l'armée nigérienne. Au Nigeria voisin, des membres d'associations et des parents émettent des doutes sur l'identité d'une jeune femme présentée comme étant la seconde lycéenne de Chibok libérée dans le nord-est du pays. Le point avec Michel Joseph.
Les autorités militaires nigérianes ont fait savoir ce vendredi que la jeune femme du nom de Sera Luka a été secourue jeudi dans la zone de Damboa, dans l'état de Borno, et qu'elle faisait partie des plus de 200 jeunes filles enlevées par les islamistes de Boko Haram dans un lycée de Chibok. L'armée a publié une photo de la jeune femme portant un voile bleu courant dans la région et similaire à celui porté par les filles de Chibok sur les images publiées par leurs ravisseurs. Toutefois, selon Yakubu Nkeki, président de l'association des parents des lycéennes prises en otage à Chibok, 2 filles du nom de Luka ont bien été enlevées, mais Sera Luka n'est pas l'une d'elles. Mardi, la première lycéenne secourue, Amina Ali, qui est âgée de 19 ans, a été retrouvée avec son bébé de 4 mois dans la forêt de Sambisa par des éléments d'un groupe d'autodéfense. Ali et sa mère ont été reçus par le président Muhammadu Buhari jeudi à Abuja.
Mali, 2 humanitaires maliens de l'ONG Médecins du Monde Belgique et leur chauffeur enlevé jeudi par les hommes armés dans la région de Menaka, dans le nord-est du pays, ont été libérés. Plus de détails sur la vague de violence dans la région avec Morgane Guiriec.
Les 2 travailleurs maliens de l'ONG Médecins du Monde Belgique avaient été enlevés près de Menaka par des hommes armés. Leur conducteur, de nationalité malienne, avait également été kidnappé. La veille, mercredi, un véhicule loué par Médecins du Monde Belgique avait été attaqué et saisi par des hommes armés près de Menaka. Un infirmier et un chauffeur qui se trouvaient à bord avaient réussi à se sauver. Toujours mercredi, 5 casques bleus tchadiens ont été tués et 3 autres grièvement blessés dans une embuscade dans la région de Kidal. À noter aussi que le 16 avril, 3 collaborateurs du Comité international de la Croix-Rouge ont été kidnappés à Abeibara, au nord de Kidal, avant d'être relâchés. Leur enlèvement avait été revendiqué par le groupe Ansardine. Les djihadistes ont été en grande partie chassés du nord malien, mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères.
Conflit en Syrie, le Pentagone a écarté aujourd'hui la proposition de frappe commune en Syrie faite par Moscou. Son porte-parole Jeff Davis a souligné que les États-Unis ne collaboraient pas avec les Russes sur les opérations militaires en Syrie. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, avait proposé à Washington et à sa coalition internationale d'effectuer des frappes aériennes ensemble à partir du 25 mai contre des groupes terroristes, dont le front al-Nusra, actif en Syrie. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Bonne soirée et bon week-end.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.